Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h30, bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. 72 000 cas de Covid ces dernières 24 heures, l'épidémie continue de monter en puissance. Le plan blanc est déclenché en Ile-de-France et on sera en direct dans un instant avec le professeur Mégarban en direct de l'hôpital Lariboisière à Paris, où il n'y a plus de place pour tous les malades. L'échec total d'Anne Hidalgo et de sa proposition d'organiser une primaire de la gauche. Ce matin, sur Europe 1, Yannick Jadot, le candidat des écologistes, lui a dit non, comme les insoumis et les communistes avant lui. Pourquoi ce naufrage de la candidature Hidalgo? Je poserai la question à Louis Dragnel. La journée nationale de la laïcité aujourd'hui, le nombre d'incidents à l'école augmente. On sera en direct avec François Cros de l'IFOP qui publie aujourd'hui un sondage. Vous le verrez, les résultats sont inquiétants. Le secteur du bâtiment va bien en France. Les derniers chiffres ont été publiés ce matin, les travaux d'isolation sont en nette progression. On verra en revanche que les professionnels sont inquiets à cause de la hausse des prix des matières premières. La météo tout de suite, la tendance avec vous Anissa Haddadi, beaucoup de pluie à l'ouest hein.
Oui, les pluies arrivent et elles sont de plus en plus fortes. D'ailleurs, Météo France annonce sur le sud-ouest 4 départements pour l'instant placés en vigilance orange. Ça se passe entre les Landes et les Hautes-Pyrénées. Attention, les crues et les inondations dans ce secteur pourront être importantes.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Europe 1. C'est donc un record depuis le début de l'épidémie. 72 000 nouveaux cas de Covid ont été comptabilisés en France ces dernières 24 heures. Céline Géraud, les derniers chiffres avec vous. L'épidémie semble monter en puissance. Hein.
Absolument. Le nouveau record, vous l'avez dit, jamais atteint depuis novembre 2020. Mais il y a des marqueurs qui nous permettent de penser que nous allons atteindre le pic de l'épidémie entre le 15 décembre et la fin de l'année. Les scientifiques se rejoignent sur ce point. Le taux de reproduction qui permet d'analyser si l'épidémie est ascendante ou descendante est en effet à 1,5 aujourd'hui et il commence à baisser, ce qui veut dire que le pic est proche. Les nouvelles recommandations, limitation des rassemblements, distanciation sociale et gestes barrières devraient permettre de réduire de 20% la circulation du virus. En attendant, la hausse des hospitalisations se confirme. 13 044 malades enregistrés et 2426 patients en soins intensifs. C'est 75 de plus qu'hier. Là aussi, les chiffres ne cessent d'augmenter. Un malade entre en réanimation toutes les 6 minutes. C'était 10 minutes jeudi dernier encore. Cette forte dégradation se ressent dans les hôpitaux, déjà en surchauffe, en raison de poussées des pathologies hivernales telles que la grippe et la bronchite. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a dit ce matin sur France 2, le plan blanc sera probablement national dans les prochains jours.
Merci beaucoup Céline. Voilà pour les chiffres. Je voudrais qu'on aille maintenant sur le terrain. Le plan blanc est déclenché dans plusieurs régions, dans l'Île-de-France. Le plan blanc, ça sert à mobiliser des équipes et des moyens. Hein. Quand l'hôpital est au bord du gouffre, on est en direct avec le professeur Mégarban. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière, c'est à Paris. Quelle est la situation dans votre service? Vous en êtes déjà à refuser des patients?
Écoutez, nos lits sont occupés depuis maintenant plusieurs semaines et donc nous travaillons à flux tendu. Aujourd'hui, la moitié de nos lits est prise par des patients présentant une forme grave de la Covid-19. Nous n'avons aucune marge de manœuvre. Donc, de fait, tous les patients qui se présentent aux urgences pour une forme grave de Covid-19 sont transférés vers d'autres hôpitaux et tous les appels qui nous sont transférés en vue d'accepter un patient ayant une forme grave de Covid-19 sont malheureusement refusés.
Ça veut dire, c'est vraiment, si le SAMU vous appelle, bonjour professeur, est-ce qu'il vous reste une place pour mon patient Covid? Vous dites non, vous n'avez matériellement plus la place.
Exactement, matériellement nous n'avons aucune place. D'ailleurs, il y a très peu de place même dans les services d'aval en médecine. Ce qui fait que nous ne pouvons même pas faire suivre la filière de soins habituelle. Quelques patients qui sont en réanimation pourraient à la limite quitter le service pour des services d'aval. Malheureusement, il n'y a pas de place.
On va revoir les transferts de malades de région à région ou pas?
Alors pour le moment, en fait, on va renforcer les liens entre les différents établissements de la région elle-même. Une cellule de régulation pourrait voir le jour pour permettre des transferts entre hôpitaux et notamment l'agence régionale de santé pourrait demander aux établissements privés et aux cliniques d'arrêter un certain nombre d'interventions chirurgicales programmées pour pouvoir accepter des patients à la Covid-19.
Est-ce que vous renoncez à des opérations et à des suivis de patients? Je pense notamment évidemment au traitement de cancer.
Alors pour le moment non, pour le moment il n'y a eu aucune déprogrammation, mais très clairement dans l'esprit des médecins qui donnent des rendez-vous ou qui programment des actes thérapeutiques ou chirurgicaux, il y a bien sûr la prise en compte de cette cinquième vague et de la saturation des lieux actuels.
On le voyait à l'instant avec Céline Géraud, les derniers chiffres, le pic épidémique semble être pour la deuxième moitié du mois de décembre avant la fin du mois. Ça veut dire que les tensions à l'hôpital vont rester importantes jusqu'à quoi? Jusqu'à la mi-janvier à peu près?
Alors malheureusement beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que déjà, il faut compter entre 15 jours et 3 semaines de délai entre le pic des contaminations et le pic des admissions à l'hôpital.
Oui.
Ensuite, il faut compter la durée moyenne de séjour d'un patient en réanimation qui est de l'ordre de 3 semaines à 1 mois. Donc vous devez rajouter encore un mois où le niveau sera extrêmement élevé de tension à l'hôpital.
Ah oui, donc ça nous amène quoi, février, hein, facilement, hein.
Oui, très facilement. En fait, il faut savoir que lorsqu'un patient entre à l'hôpital, il va y rester au minimum 3 semaines. Et donc, évidemment, vous avez un effet d'accumulation qui fait que la charge de travail et la pression va durer plus longtemps. Sans compter, évidemment, qu'une épidémie dans l'épidémie pourrait jaillir avec l'apparition du variant Omicron qui pourrait relancer les contaminations. En fait, tout l'objet des mesures qui sont prises actuellement est de permettre une baisse des contaminations accélérée et non pas un maintien sur un plateau haut comme l'hiver passé.
Merci beaucoup, professeur Mégarban. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi, les 12h37.
Europe Midi. Midi 30, 13h, Romain Desarbres.
Le grand flop de la proposition d'Anne Hidalgo d'organiser une primaire à gauche pour la présidentielle. Les insoumis, les communistes, les écologistes lui disent non. Pour les écologistes, Yannick Jadot a choisi Europe 1 et Sonia Mabrouk pour dire ce matin tout le mal qu'il pensait de l'initiative de la candidate socialiste et maire de Paris. On l'écoute.
Non, je ne participerai pas à une primaire de la gauche parce que l'élection, c'est dans 4 mois et demi. Qu'il faut être un peu sérieux. À un moment donné, elle a pris acte que sa candidature ne portait pas l'espoir.
Pourtant,
que
pas...
sa candidature Attendez. Ne pouvait pas rassembler.
Elle ne veut pas se retirer si la primaire n'a pas lieu.
À un moment donné, vous ne pouvez pas faire campagne en prétendant vouloir rassembler et être le plus petit dénominateur commun. Là, moi, j'appelle les socialistes à ne pas avoir une candidature quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte de notre perspective de victoire, quoi qu'il en coûte du rassemblement, quoi qu'il en coûte de l'urgence climatique, de l'urgence sociale, de l'urgence démocratique dans lequel est notre pays.
On est avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis.
Bonjour Romain.
On est d'accord, l'initiative d'Anne Hidalgo n'a aucune chance d'aboutir. Hein.
Oui, tout simplement parce que aucun candidat de gauche ne l'a accepté. En fait, il y a deux types de candidats. Il y a ceux qui ne décollent pas dans les sondages, ceux qui sont à moins de 5%, Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg, et donc qui plaident pour cette union. Et de l'autre côté, il y a ceux qui dépassent les 7% dans les sondages, et eux souhaitent en fait que les autres candidats se rallient à eux. Yannick Jadot considère qu'il a déjà remporté une primaire, la primaire écologiste, même tonalité chez Jean-Luc Mélenchon, qui estime être le seul capable d'accéder au second tour de la présidentielle. Donc pour résumer, cette primaire est morte-née, mais c'était peut-être en fait l'objectif d'Anne Hidalgo.
Ah bon, pourquoi ?
Eh bien, depuis plusieurs semaines, la gauche cherche une solution pour essayer de n'avoir qu'une seule candidature, et surtout une candidature qui fasse plus de 5%. Certains ténors ont même essayé de convaincre François Hollande qui a décliné. D'ailleurs, lui n'approuve pas l'initiative d'Anne Hidalgo, mais il dit beaucoup de bien en privé d'un nom, celui qui revient le plus d'ailleurs pour fédérer la gauche, Christiane Taubira. On finit donc par se demander si Anne Hidalgo n'a pas, au fond, cherché à se retirer de la présidentielle sans le dire, à travers cette porte de sortie qui, ce matin, fait un vrai flop.
Merci beaucoup, Louis. Il est 12h39. Restez bien avec nous sur Europe 1. C'est la journée nationale de la laïcité. Vous allez voir que les chiffres d'une enquête, d'une étude de l'IFOP font peur, sont inquiétants. Le respect de la laïcité à l'école recule. Restez bien avec nous. À tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres.
12h42, c'est donc aujourd'hui la journée nationale de la laïcité. On est le 9 décembre, jour de la promulgation de la loi de 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État. Parmi les lieux où le respect de la laïcité pose le plus problème, il y a l'école. Virginie Riva avec nous. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Le nombre d'atteintes à la laïcité recensées par le ministère de l'Éducation est en nette augmentation de plus de 10% ce trimestre.
Oui, effectivement, 614 signalements, soit 67 de plus que lors du dernier recensement en avril dernier. Cette augmentation, elle se voit surtout au collège où cela représente 51% des faits recensés. Elle diminue en revanche au primaire alors qu'elle avait tendance à augmenter ces dernières années, du fait souvent d'ailleurs de contestations des parents. Là, dans l'ensemble, ces atteintes, elles sont majoritairement le fait des élèves dans 8 cas sur 10. Avec chez les jeunes, une particularité, c'est une nette augmentation des provocations verbales. Alors géographiquement, ces incidents, ils sont concentrés pour moitié dans l'académie de Versailles, Créteil, Lille, Nice, Toulouse et Nantes. Ce que le ministre Jean-Michel Blanquer explique, c'est que cette augmentation, elle est aussi liée à la commémoration de la mort de Samuel Paty. Les cérémonies, temps d'échange ou de recueillement organisés dans les établissements scolaires ont occasionné plus de 200 incidents, avec quand même 91 apologies du terrorisme. C'était beaucoup moins l'an dernier, juste après la mort du professeur.
Mais merci beaucoup Virginie Riva, on est en direct avec François Cross de l'IFOP. Bonjour François Cross.
Bonjour.
Je voulais vous avoir avec nous parce que vous publiez une enquête pour la LICRA sur la laïcité à l'école. Et les résultats sont édifiants. Plus de la moitié des lycéens ont été confrontés à un comportement en lien avec un fait religieux. Ça veut dire quoi ?
Bah, par exemple, la moitié des lycéens publient dans le public ont déjà constaté des demandes à ce que soient servis des menus conformes à des pratiques confessionnelles. Mais aussi à peu près un tiers ont déjà observé des absences de jeunes filles à des cours de natation ou des cours d'éducation physique au nom de convictions religieuses. Donc on n'a pas seulement une contestation du contenu même des enseignements, par exemple des enseignements liés à l'histoire ou à l'instruction civique, mais au sein même de la vie scolaire, on a aussi une contestation de certaines... du principe, je dirais, de neutralité religieuse.
Ça touche plus les lycées de zones prioritaires ?
Oui, c'est très net. Hein. On a les deux tiers des lycéens qui sont classés en établissement prioritaire, qui ont déjà observé au moins une fois durant leur scolarité une forme d'expression du religieux qui peut aller vers des formes d'entre-soi durant certains moments de la vie scolaire, vu qu'on a quand même... la moitié d'entre eux qui ont déjà observé, par exemple, le refus de donner la main à quelqu'un qui n'est pas de sa religion.
Ah oui.
Et un tiers qui ont déjà vu l'organisation de cantines à table en fonction de la religion.
Alors, c'est une enquête très très fouillée hein, que vous publiez aujourd'hui. On s'aperçoit, par exemple, que plus de 60% des lycéens acceptent qu'on montre des caricatures religieuses en cours. J'allais dire heureusement, c'est-à-dire quand même qu'il y a un tiers pour qui ça pose problème. Mais le chiffre tombe à 19% seulement pour les élèves musulmans.
Oui, la question du droit à la critique des religions à l'école met en exergue le fossé qui existe entre les élèves musulmans et les autres sur ces sujets. Parce que si la majorité des lycéens soutient le droit hein, des enseignants à montrer des caricatures comme l'avait fait Samuel Paty, vous en avez quand même 81% des élèves musulmans qui désapprouvent ce genre de pratique. On voit qu'ils sont globalement très réticents à toute forme d'irrévérence à l'égard de la religion.
Et les professeurs dans tout ça, François Cross ?
Bah, les professeurs, on les avait interviewés dans une enquête il y a quelques mois pour la Fondation Jean Jaurès, et ils constataient à peu près la même chose. Hein. Ils avaient dans les mêmes proportions le même niveau de contestation de cours au nom de la religion, notamment des cours portant sur la mixité filles-garçons ou des cours liés à l'éducation sexuelle. C'est des cas qui sont observés par la moitié des élèves en éducation prioritaire.
Merci beaucoup François Cross, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. C'est une enquête passionnante, très riche, très fouillée, je le disais, qu'on peut retrouver sur le site internet de l'IFOP. Exercice très rare pour le président de la République. Il va donner une conférence de presse à 16h avec des journalistes qui vont lui poser des questions. C'est ça une conférence de presse. Alors, conférence de presse à 16h sur l'Europe parce que la France va prendre la présidence du Conseil de l'Union Européenne pour 6 mois à partir du 1er janvier prochain. Jacques serez avec nous du service politique d'Europe 1, bien sûr. Jacques, on soupçonne Emmanuel Macron de vouloir se servir de cette présidence européenne pour faire sa campagne pour sa réélection en France.
Oui, c'est son intention, s'appuyer sur cette nouvelle fonction pour affirmer son ADN politique. Lui qui se dit comme étant ni de gauche ni de droite, se revendique comme profondément européen. Et c'est là l'occasion, une fois de plus, pour lui de diviser aussi bien la gauche que la droite. La question de l'Europe clive de chaque côté de l'échiquier politique entre pro-européens et eurosceptiques. Surtout avec cette présidence, Emmanuel Macron compte bien montrer l'image d'un chef de l'État au-dessus de la mêlée par rapport à ses adversaires. D'ailleurs, ce n'est certainement pas un hasard si cette conférence de presse a lieu aujourd'hui, 5 jours seulement après la désignation de Valérie Pécresse comme candidate des Républicains. 4 jours après qu'Éric Zemmour se soit déclaré officiellement, la bataille de 2022 est lancée et Emmanuel Macron le sait. Avec cette conférence de presse, en anticipant la date du 1er janvier, il se place au centre du jeu, au centre des débats pour saturer l'espace médiatique sans être officiellement candidat.
Jacques Serey, merci beaucoup. Conférence de presse donc à 16h et débrief ce soir dans Punchline avec Laurence Ferrari, 12h48.
Europe Midi, midi 30, 13h, Romain Desarbres.
Les tout derniers chiffres du secteur du bâtiment, ils ont été publiés ce matin. C'est toujours très intéressant de regarder les chiffres du bâtiment. L'activité est soutenue, il y a beaucoup de demandes, surtout des particuliers. Élise Dangean, c'est vous qui avez rencontré les professionnels. Vous nous dites qu'il y a, malgré tout, une chose qui les inquiète, c'est l'augmentation des prix des matières premières.
Absolument, Romain. C'est le gros nuage au-dessus de la tête des professionnels du bâtiment, celui qui pourrait ternir un bilan positif dans un contexte de pandémie. Le secteur devrait retrouver son niveau d'avant-crise d'ici un an, tiré vers le haut par le boom des rénovations énergétiques grâce au dispositif MaPrimeRénov. Les constructions de maisons individuelles ont également très fortement progressé, mais il y a en effet une inquiétude très vive face à des prix qui explosent, comme l'explique Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment.
Des hausses de 60, 80, 100% certaines fois sur le PVC, le bois, l'acier et les matériaux non ferreux comme sur les cartes à puces pour certains matériaux. Donc oui, on a été très touchés et financièrement les entreprises redoutent des bilans négatifs en 2021. Donc là, la catastrophe peut être proche.
À cela s'ajoutent quelques déceptions. Le logement neuf collectif et les contrats pour des bâtiments administratifs. Là, les chiffres sont moins bons. La filière espère pouvoir se rattraper l'an prochain.
Merci beaucoup, Élise. Il est 12h49. Restez bien avec nous. Dans un instant, on entendra Amélie Mauresmo, la nouvelle patronne du tournoi de Roland-Garros. Elle va nous décrire ses objectifs pour Roland. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
C'est une première, une femme à la tête du tournoi de Roland-Garros. Il s'agit d'Amélie Mauresmo. Elle remplace Guy Forget, celle qui a été numéro 1 mondial en 2004. Nous explique, écoutez, que parmi ses objectifs, elle aimerait que Roland-Garros devienne le tournoi préféré des joueurs.
Il y a 4 tournois du Grand Chelem. On voudrait être déjà le préféré des joueurs et des joueuses. Le chouchou. Ça, c'est évident parce que je pense qu'il y a certaines choses sur lesquelles on pourra pas, peut-être pas rivaliser, en tout cas le faire différemment, mais en tout cas sur l'accueil, la proximité, ça je pense qu'on peut déjà impacter. Déjà voilà une première réponse sur les 2-3 ans. Pour le reste, de façon plus large, je vais avoir besoin d'un petit peu de temps.
Voilà, Amélie Mauresmo, la nouvelle patronne de Roland-Garros. Du football avec Lille. Lille qui rejoint les grands d'Europe en Ligue des Champions. Victoire 3-1 hier soir face aux Allemands de Wolfsburg. Et donc les Lillois sont qualifiés pour les 8e de finale. Bonjour Cédric Chasseur.
Bonjour Romain.
Cédric Chasseur, Lille qui en plus termine en tête de son groupe devant Salzbourg. Hein.
Oui, et ce n'était pas gagné. Souvenez-vous du début de campagne européenne du LOSC. 2 nuls et 1 défaite en 3 matchs. 1 seul but marqué. Rien ne semblait prédire un tel dénouement. Et puis il y a ce match à Séville, remporté 2-1. Une première victoire en 9 ans du LOSC en Ligue des Champions. Le déclic pour les hommes de Jocelyn Gourvennec, pas toujours à leur avantage en Ligue 1, mais qui ont décidé de faire de l'Europe leur terrain de jeu. Lille termine donc la phase de groupe avec 3 victoires consécutives. La dernière, hier soir, 3-1 à Wolfsburg, ne souffre d'aucune contestation. Les Dogs ont eu la maîtrise de la rencontre. Jamais ils n'ont semblé en difficulté. Et c'est un vrai retournement de situation comparé au début balbutiant de Lille avec Gourvennec lors de sa prise de fonction. Voilà donc son équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire. Lille attend désormais son adversaire. 6 possibilités différentes s'offrent au LOSC. 6 deuxièmes de groupe. Un reste à définir. Ce sera soit l'Atalanta Bergame, soit Villarreal. Pour le reste, c'est du lourd. L'Atlético Madrid, le Sporting Portugal, l'Inter Milan, le Benfica Lisbonne et Chelsea. Mais vous savez, Romain, le tirage au sort en Ligue des Champions, ce n'est pas qu'une histoire de hasard. Deux équipes d'un même pays ne peuvent pas s'affronter en huitième. Vous ne pouvez pas non plus affronter une équipe qui était dans votre groupe. Et à ce jeu-là, Chelsea a une chance sur 3 de tomber sur Lille. Ce serait le pire tirage, bien évidemment, pour les Dogs.
Merci beaucoup, Cédric Chasseur.